Vous écoutez
RMC.
RMC.
Il court, mais il sprint vers Pulido. Il lui met un coup de poing monstrueux. Non, mais c'est n'importe quoi.
Bah, écoute, moi, je trouve ça pas non plus scandaleux.
On est vraiment dans une société de fragiles, sérieux, quoi.
Non, mais je comprends Polo et Daniele. Après, je te comprends toi aussi et je comprends tout à fait bien.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. C'est Génération After spécial Drôle de Dame. La seule émission à la radio française qui parle pendant 2 heures des championnats étrangers, même à 10 jours d'une Coupe du Monde. Pour l'Espagne, une drôle de dame qui va vivre sa première Coupe du Monde, pas en tant que journaliste, mais en pleine conscience. Tu vas voir Edgar, il va te rester plein d'images quand tu seras grand. Bonsoir Edgar.
Salut Nico, salut tout le monde, c'est à peu près ça.
On va t'accompagner pour découvrir tout ça, tu seras sur place, en plus c'est merveilleux. Pour l'Allemagne, une drôle de dame qui dira après chaque match de cette Coupe du Monde, ça ne vaut toujours pas le Mondial 74 ou 82. Bonsoir Paulo Breitner.
J'ai jamais dit que le Mondial 74 était...
82 façon, quel est ton Mondial préféré?
C'est 82. Tout le
82,
monde
bien sûr.
C'est pas mon choix, c'est l'histoire.
C'est l'histoire.
Bah oui.
D'accord, on pourra en débattre. Ce soir, on pourra en parler d'ailleurs, ce soir, en deuxième heure. Pour l'Italie, une drôle de dame. Bonsoir Daniele.
Bonsoir, bah merci Nico.
Je sais pas quoi te dire, mon pauvre Daniele.
Bah, parfois, de rien dire, c'est le mieux de dire.
Et pour l'Angleterre, une drôle de dame qui sait pertinemment que l'histoire finira par un tête contre tête. Tourelle Bellingham, une élimination en quart de finale et Harry Kane, le genou à terre. Bonsoir Julien Laurence.
Salut Nico, t'as peut-être raison.
Tu t'es préparé à ça ou pas? Toute éventualité,
bien sûr.
Ouais, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Je me prépare à toutes les. Avec eux, tu sais jamais ce qui va se passer. Donc, bon. Comme ça.
Bon, de toute façon, maintenant t'en fous, hein. T'es champion d'Europe, t'es finaliste.
Double champion d'Europe, s'il te plaît.
T'es double champion d'Europe, exactement. T'es champion d'Angleterre aussi, un petit peu quand même. Tu peux
tout à fait
le dire quand même.
Tout va bien. T'es un peu tiraillé samedi quand même. Ouais.
Bon, l'été, la saison est déjà réussie. Ce soir, pas de 3 points. C'est une émission particulière post-saison de club et pré-mondial. Dans un instant, comment le nouveau sacre du PSG est commenté chez vous? L'actu Mercato, Anthony Gordon au Barça, pourquoi? Le départ de Konaté de Liverpool, pour où? Qui pour succéder à Slot? Adrien Rabiot suivra-t-il Allegri à Naples? À 18h, à la relance. Dans son ancien club à l'Eintracht Francfort. Et donc, dans la deuxième heure, spéciale Coupe du Monde, l'actu de vos sélections et ces questions. Qui est favori? Votre favori pour le mondial? Qui sera votre meilleur joueur? Selon vous, votre révélation? Également du tournoi, on va jouer ensemble ce soir, 32-16 ouvert avec les drôles de dames. Et à 22h, la dernière date de l'immense tournée de l'After, les 20 ans, qui se ponctue dans le Nord. Bonsoir Gilbert.
Salut à tous. Et oui, on est à Valenciennes ce soir, au cinéma Pathé de Valenciennes pour la dernière étape, le tournée des 20 ans. On a fait une bonne dizaine de villes maintenant et on est ravis d'être à Valenciennes où il y aura beaucoup de monde ce soir au cinéma Pathé. On va parler évidemment du PSG, revenir sur le week-end et la suite, jusqu'où peut aller ce PSG. Puis l'After va répondre à Emmanuel Macron qui a un peu parlé de nous sans nous citer, à Nasser Al-Khelaïfi qui pense que le PSG est désormais le club de toute la France, et puis Olivier Létang sera avec nous, on n'est pas très loin de Lille, ici Olivier Létang qui nous présentera son nouveau coach, qui nous parlera Mercato, la préparation de la Ligue des Champions. Donc beaucoup de PSG, beaucoup de Lille et de la Coupe du Monde ce soir. On parlera notamment des problèmes de dos de Saliba, et puis un peu de Valenciennes aussi quand même, parce que Valenciennes, c'est Steve Savidan, c'est José Cèze, mais c'est aussi Georges Ebrouchaga et Jacques Glassman.
Jacques Glassman également. Merci Gilbert. À l'After,
à tout à l'heure,
22h jusqu'à minuit. C'est parti pour les drôles dames. Alors on va revenir quand même quelques minutes sur la finale de la Ligue des Champions remportée par le Paris Saint-Germain, savoir comment elle est commentée, perçue chez vous, quelles conséquences il peut y avoir chez vos clubs majeurs également, quand c'est une confirmation comme celle-ci, dans la forme, dans le jeu, sur le fond également. On va en parler ensemble. D'abord, toi Edgar, en Espagne, qu'est-ce qui est mis en avant deux jours ou sur le lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain?
Le succès de Luis Enrique, évidemment. Je pense, oui, que ce troisième titre en Ligue des Champions pour lui, et surtout deuxième consécutivement, ça le place dans une autre catégorie dans l'esprit des gens. Ça le place vraiment chez les génies, chez les très grands entraîneurs du 21e siècle. Et je pense que personne n'avait besoin de ce titre-là pour le placer déjà parmi les meilleurs. Mais là, peut-être qu'il passe encore dans une autre catégorie. Et en tout cas, j'ai l'impression qu'en Espagne, c'est vu comme ça. Beaucoup ont rappelé notamment, et ce qui a beaucoup tourné ces derniers jours en Espagne, c'est cette fameuse vidéo, vous savez, dans son documentaire où il dit l'année prochaine, quand Kylian Mbappé sera plus là, je vais contrôler toutes les situations. Et là, tu te rends compte que derrière, il gagne deux Ligues des Champions. Donc ça, ça a beaucoup fait réagir en Espagne. La vidéo est ressortie, a énormément tourné. Et pour les Espagnols, c'est aussi le symbole du succès d'une philosophie de jeu, d'une philosophie espagnole, et c'est aussi quelque part, même si c'est pas un club espagnol, la réussite du foot espagnol, parce que il y a cette patte Luis Enrique, parce qu'en face aussi il y avait Mikel Arteta. On l'a dit la semaine passée, les Espagnols sont très fiers d'avoir autant d'entraîneurs qui ont réussi cette saison.
Oui, et en même temps, Edgar, les Espagnols sont contents de plus l'avoir comme sélectionneur, Luis Enrique.
Oui, aussi, mais quelque part, mais oui, mais parce que ça se passait moins bien aussi avec l'Espagne, parce que je pense que aussi son personnage, c'est plus compliqué pour une sélection, mais c'est la confirmation, en fait, que c'était pas juste un one shot, entre guillemets, avec le Barça, avec des très grands joueurs. Là, il a construit son équipe de A à Z, il fait quelque chose de fou, et vraiment, en Espagne, ça a été énormément, énormément suivi, et maintenant qu'on a analysé, on va dire, le succès de Luis Enrique, on regarde son propre championnat. On se dit qu'on a envie de voir le Barça rapidement essayer de rivaliser avec ses joueurs. On se demande ce qui leur manque aussi pour arriver à ce niveau-là. Et on commence, côté madridien, à avoir un petit peu peur, à se dire on espère quand même que le PSG va pas aller en chercher trois d'affilée pour
vraiment aller, ça c'est une inquiétude du Real Madrid.
Non, mais je pense pas. Supporters en tout cas qui se disent ah c'était quand même ça fait quand même bizarre de voir une autre équipe peut-être créer une dynastie, parce que on avait l'impression que ce genre de choses c'était aussi réservé à des clubs comme le Real Madrid, comme le Barça, qui étaient les rois d'Europe. Maintenant, ce sont plus les rois d'Europe. Il y a d'autres équipes qui mènent la danse. Et je pense que c'est un beau challenge maintenant pour le foot espagnol de montrer, OK, c'est toujours la philosophie espagnole qui domine l'Europe, mais il faut aussi que ça soit les clubs maintenant qui rivalisent avec ce genre d'équipe, avec le PSG, avec le Bayern dans les prochaines années.
Ta question également, Polo, toi, est-ce qu'on traite la victoire du PSG comme la victoire d'un club français? Je te pose la question, je me pose la question également, ou comme vraiment une équipe tellement à part en France, en Europe, qu'il est difficile de l'identifier, quoi, sur le plan national.
Je vais rester sur le terrain des journalistes allemands, parce que j'ai pas vu la finale. Chez Kicker, ce matin, l'information a été traitée en page 30 et 31.
Waouh.
Donc, c'est relégué tout au fond, en gros, avec deux très beaux articles, d'ailleurs, un sur Arsenal, qui paye un petit peu la stratégie, on va dire, mise par Arteta sur les derniers mois. Et puis, par contre, à l'inverse de ce que vient de dire Edgar, les Allemands sont persuadés que le PSG peut créer une ère et que ça va être très dur de revenir au niveau de ce PSG-là, puisque y compris lors de la demi-finale contre le Bayern, la différence, c'est pas qu'il y a une équipe qui est forte offensivement, c'est qu'en face, il y a une équipe complète. Et Luis Fernandez a fait une interview dans la Süddeutsche en disant ce qui est intéressant avec cette équipe, pourquoi on l'aime, cette équipe du PSG, c'est qu'elle est aussi bonne. On l'aime quand elle a le ballon, mais on l'aime aussi lorsqu'elle n'a pas le ballon. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas de football total comme l'Ajax des années 70, mais de football complet. En Allemagne en tout cas. Et donc c'est là où on est persuadé, et c'est là le défi pour le Bayern, c'est-à-dire, c'est marrant qu'en Allemagne, ils n'aient pas parlé de ça, mais les deux seules défaites du Bayern en Ligue des Champions sont les deux seules défaites face aux deux finalistes. Donc est-ce que ça veut dire que contre une équipe, entre guillemets, je mets trop défensif, ce qui n'était pas le cas lors du match aller, le 3-1 à Londres face à Arsenal, le Bayern de compagnie ne sait pas comment faire, et surtout ils ont été dépassés lors du match retour par une équipe beaucoup plus complète. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de boulot pour non pas aller en demi-finale, mais aller chercher.
Est-ce que tu es d'accord avec ce constat, franchement, Polo? Est-ce que la marge est importante entre le Bayern, par exemple, et le PSG? Tant que ça?
Moi, j'oublie pas que le PSG menait 5-2. C'est-à-dire, tu mènes pas 5-2 comme ça, quoi. C'est-à-dire que même s'il y a eu des occasions dans tous les deux, ça a été ce match fou qui a fini à 5-4. Je veux dire, 5-2, t'es quand même proche du ravin lorsque tu es le Bayern ou n'importe quelle équipe. Et on va dire, c'est presque le PSG qui permet à Upamecano, si même moment ne fait pas défaut, de revenir à 5-3, puis ensuite ça le 5-4. Mais le match retour est très intéressant parce que au-delà, peut-être, je vais rapidement, d'arbitrage qui reste quand même un problème en Europe du football,
sans le mettre tout en haut, sans le mettre tout en bas. Il y a un vrai problème au niveau footballistique, au niveau de l'arbitrage, je pense, en Europe, parce que ça va trop vite. Je pense pas qu'on ait les bonnes solutions. On l'a trop compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, le PSG peut aller chercher une troisième Ligue des Champions, mais c'est la question de la motivation interne et du vestiaire et de Luis Enrique et des joueurs. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, je pense qu'on va en parler pendant les deux heures, Diomandé n'est pas annoncé au PSG, mais on sait qu'il y a des négociations. Mmh. Si tu commences à aller chercher des joueurs qui sont déjà l'avenir du football européen, et du football ivoirien évidemment, ça risque d'être compliqué pour les autres. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je trouve assez extraordinaire dans ce PSG-là, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont matures et qu'ils ont pris la chance, entre guillemets, du Real d'il y a quelques années.
Tout à fait. Oui, la chance en plus de la structure, du discours, de la motivation, de l'état d'esprit.
Ils arrivent à s'adapter. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette équipe du PSG version Luis Enrique, et donc pour les détrôner, ça va pas être évident.
Julien, est-ce que tu faisais partie de ceux qui se disaient samedi soir pendant le match, après l'égalisation du PSG, même pendant la prolongation, de toute façon, un peu comme le Real à son époque, hein, 2017-17-18, ça va finir dans l'escarcelle du Paris Saint-Germain?
Sincèrement, non, j'étais pas trop dans cette optique-là. J'ai trouvé la résistance entre guillemets d'Arsenal assez intéressante, et moi je pense que le plan de jeu, même si au final ça n'a pas fonctionné exactement comme Arteta l'aurait voulu et qu'il a manqué un peu de joueurs techniques quand même dans certaines positions clés. Sinon, donc j'étais plus dans une analyse autre déjà que de me dire bah ça y est, c'est gagné pour le PSG maintenant qu'ils sont revenus au score. Parce qu'une fois arrivé au tir au but, je me suis dit que Raya a aussi parfois été très bon dans les séances de tir au but. Et même si je savais que Safonov avait un peu la baraka et le PSG avait gagné les cinq dernières séries aussi de tir au but. Donc il y avait peut-être un petit avantage pour eux, mais non, je voyais pas trop ça comme ça. Et puis finalement, j'ai aimé le contraste entre les deux équipes. J'ai aimé que le PSG a cherché cette victoire dans le sens où ils ont dû beaucoup plus batailler, par exemple, que la saison dernière contre l'Inter, qu'il a fallu trouver d'autres solutions dans un match qui était beaucoup plus fermé, bien sûr. Mais si tu ouvres contre eux, tu te fais punir. Si tu fermes contre eux, tu perds aussi. Si tu fais un peu des deux, comme Chelsea ou Liverpool, tu te fais punir aussi. Donc j'ai trouvé finalement que cette victoire du PSG, elle était tellement complète dans tout ce qu'ils ont pu faire cette saison finalement, et que les pires adversaires auront été Monaco et Arsenal en Ligue des Champions depuis le mois de janvier. Ouais, exactement.
Julien, c'est une question quand même qui se pose, parce que je pense que ceux qui nous écoutent se demandent comment Arsenal est traité en Angleterre après cette défaite. Arsenal très critiqué en France, je ne sais pas si tu l'as vu à distance forcément, pointé du doigt. Le PSG valorisé, il y a des stats folles, évidemment, 24,7% de possession, un joueur comme Odegaard qui touche 12 ballons en 36 minutes, un Arsenal qui réussit 196 passes pendant que Vitinha en réussit à lui seul 141. Est-ce que tu penses que Arteta a épuisé sa méthode? Est-ce qu'il va la faire évoluer ou rester sur ce qui lui a permis d'être champion d'Angleterre enfin?
Alors, il y a plein de choses dans ta question, parce que son style de jeu a évolué dans la saison déjà. Je l'ai répété assez souvent.
Par rapport à ce qu'il a produit ces derniers mois, surtout.
Voilà, les derniers mois, oui, mais les derniers mois, ça peut s'expliquer encore une fois par un coup de moins bien, un peu de la fatigue sur certains joueurs, notamment Zubimendi par exemple, d'autres qui reviennent de blessures comme Saka ou Odegaard. Quand tu perds un joueur comme Timber, quand Timber est entré en jeu, on a vu la différence tout de suite par rapport à Mosquera. Mais il pouvait pas débuter, c'était pas possible. Donc il y a d'autres choses que tu peux aussi, avec quoi tu peux expliquer un petit peu le changement ou l'évolution tactique, on va dire, ou dans les initiatives ou dans la volonté de ce que Arteta a voulu faire. Moi, je continue à dire que contre cette équipe du PSG, on l'a vu avec Chelsea à la Coupe du Monde des clubs, c'est finalement la meilleure tactique à employer. Alors tout le monde peut pas le faire, c'est sûr. Il y en a d'autres qui voudront jouer comme le Bayern, et il y a des jours où ça passera. Mais si tu ouvres contre le Bayern, encore une fois, tu offres au PSG tout ce qu'ils aiment. Donc je pense que le plan de jeu était pas forcément le mauvais au départ. Le but très tôt de Havertz en fait amplifie un peu ce côté négatif de bah maintenant on va défendre, puisque maintenant on mène au score, donc on va faire ce qu'on avait prévu de faire, mais encore plus défensivement et puis encore plus, et ça c'était très compliqué pour eux. Tu peux pas défendre contre cette équipe là pendant 84 minutes. C'est pour ça que je pense que dans certaines zones du terrain il aurait fallu un peu plus d'habileté technique chez certains joueurs d'Arsenal. Par exemple, moi j'aurais fait jouer Calafiori et pas Incapié, j'aurais mis Eze à gauche et pas Trossard, pour justement avoir la densité mais en plus la qualité technique pour pouvoir au moins rivaliser à la récupération du ballon avec le PSG. Il a fait d'autres choix, voilà, j'ai rien contre ce qu'il a fait. Encore une fois, je peux très bien le comprendre. En revanche, il a très vite compris que là, ça aurait pu marcher peut-être ce soir-là, mais que de toute façon, la saison prochaine, il fallait faire autre chose. Je pense qu'ils vont investir cet été assez lourdement, entre guillemets. Ils vont vendre beaucoup, ils vont acheter beaucoup aussi. Enfin, en tout cas, ils vont acheter sûrement cher certains. Mais en tout cas, je pense qu'ils sont très... conscients de ce qu'ils doivent aller chercher. Par exemple, tout de suite, une des premières réponses de Arteta en conférence de presse après le match, c'est il nous faut un moment. Alors, il n'a pas dit quel côté, mais c'est sur le côté gauche. Oui. Un joueur qui, en 1 contre 1, va pouvoir faire des différences. D'accord. À lui tout seul. En gros, un Kvaratskhelia, ce genre de joueur-là. Parce qu'on l'a bien senti samedi, que ça manquait beaucoup dans ce que Arsenal pouvait faire dans la configuration tactique qu'ils avaient choisie.
Bon, et déjà en demi-finale, par exemple, hein, je me souviens face à l'Atlético, c'était frappant, c'était terrifiant de voir autant, et particulièrement sur le côté gauche. Je me souviens par exemple de Martinelli au match aller au Metropolitano. Il prend la balle, il revient vers l'arrière, et tu dis mais si t'as quelqu'un qui vient provoquer, créer quelque chose, ça va être beaucoup beaucoup plus intéressant. Et c'était un manque qui, je trouve, est très très facilement identifiable, même quand tu regardes quelques gros matchs d'Arsenal. Ça saute aux yeux, je trouve, par rapport aux autres grandes équipes européennes cette saison.
Il y a un nom qui sort du chapeau ou pas? On parlera de Yann Diomandé, qui lui préfère jouer à droite, même s'il joue à gauche à Leipzig. Il y a des noms qui sortent déjà ou pas, Julien?
Ouais, bien sûr. Alors, un joueur comme Gordon, par exemple, c'est un joueur qui était apprécié du côté d'Arsenal, qui a choisi le Barça, plus que le Bayern ou qu'Arsenal, et voilà. Bon courage à lui, on verra ce que ça va donner. Aussi, un joueur comme Mika Götze, dont on parle beaucoup, qui est encore un très jeune joueur. C'est pas la solution forcément, mais en termes de dribbleur cette saison, dans les sept grands championnats, on va dire, si on inclut le Portugal et les Pays-Bas, il est tout en haut en termes de dribble réussi, par exemple. C'est un joueur qui est très excitant, qui peut faire des différences comme ça dont parlait Arteta. Un joueur comme Barcola, bien sûr, aussi, parce que on sait pas trop ce qui va se passer pour lui au PSG. C'est un joueur qui est suivi par beaucoup de grands clubs, notamment en Angleterre, parce qu'il plaît beaucoup, beaucoup. Son profil plaît beaucoup en Angleterre, malgré les problèmes à la finition, comme on l'a encore vu samedi dans la finale. Donc, ils ont plusieurs options. Un Morgan Rogers, un Julian Alvarez. Alors, c'est des joueurs différents, ça, mais pour renforcer, en tout cas, cette ligne d'attaque, t'as aussi d'autres profils qui vont aller chercher. Et je pense qu'ils sont tout à fait conscients des progrès qu'ils ont à faire encore avec ballon, notamment comme ça, en fin de saison, quand tes organismes sont compliqués. Parce que l'autre, juste pour finir sur comment nous, on a vu comme la finale a été vue depuis l'Angleterre, les gens se demandent, est-ce que Luis Enrique pourrait faire ça avec un club anglais? Vu les demandes physiques de la Première Ligue sur 38 journées, sans trêve hivernale, choses comme ça, est-ce qu'il serait capable de jouer ce football-là, en fait, en Angleterre? Et c'est la grande question. Et de toute façon, on le saura, parce qu'un jour, il viendra inévitablement ici.
Ah bon?
D'ailleurs, samedi, quand... Pardon?
Tu penses?
Ah, moi, j'en suis convaincu, ouais.
Ah oui.
Même lui aussi, hein, il le dit tout le temps, qu'il adore la Première Ligue, il a appris l'anglais pour venir entraîner en Première Ligue. Et d'ailleurs, dès que Slot a été viré de Liverpool, les gens que j'ai rencontrés au stade en arrivant, on était arrivés très tôt, nous, tout le monde me disait, ouh, Liverpool, Luis Enrique, est-ce que c'est possible? J'ai dit, calmez-vous, relax, déjà, tout le monde va se calmer. Mais dans 2 ou 3 ans, à mon avis, quand il aura fait tout le tour du projet parisien, eh ben, je pense qu'il viendra en Première Ligue.
D'accord. Intéressant. Bon, Daniel Echetoy, comment on a regardé ça, justement? Qu'est-ce que ça raconte, le sacre du PSG depuis l'Italie? Est-ce que, bien, on a l'impression de voir le multivers, le futur, ou le passé, peut-être, de l'Italie?
Non, ça, c'était plutôt pendant le match entre le PSG et Bayern Munich. On avait souligné la distance de qualité technique et athlétique. Non, on a beaucoup parlé de l'attitude d'Arsenal. On l'a un peu mis dans les mêmes chapeaux des équipes italiennes qui font du catenaccio, qui défendent.
Oui.
Moi, je suis pas d'accord, hein. Moi, je suis pas d'accord. Moi, ça, c'est la lecture de, on va dire, des social networks et aussi un peu dans la télé, dans les journaux où ils ont un peu quand même souligné le fait qu'Arsenal, ils ont pas beaucoup essayé. Moi, je pense que, en tout cas, on a vu quelque chose d'intéressant, parce que c'est vrai que c'est pas juste une question d'attitude, c'est-à-dire faire bloc bas ou moyenne contre une équipe comme PSG. Mais Arsenal, ils ont aussi défendu en regardant la zone, l'espace. Ça, c'est une grosse différence. C'est pas des marquages individuels, comme même en Premier League, on en a vu beaucoup. Cette saison, même, pas Guardiola, mais l'assistant de Guardiola, je me souviens pas comment il s'appelle, les deuxièmes Pep, il a parlé du fait que même en Premier League, il y a beaucoup de marquages individuels. Et ça crée des problèmes à la construction du jeu quand il part du gardien. Mais la défense, comme ça, en bloc, en regardant les espaces, très solide, très solidaire et très attentif, ça demande une concentration de folie. C'est moi, je pense, un peu une nouveauté à ce stade-là de football. Et ça montre les biens. Parce que Arsenal, moi, je pense qu'ils ont très, très limité Paris, même si peut-être le Paris Saint-Germain, ils n'étaient pas dans leur meilleure journée. Mais après, ça a montré aussi qu'effectivement, tu ne peux pas garder cette concentration tout le match. Ça suffit un petit moment où tu es un peu en retard avec Mosquera et voilà, et un petit 1-2 de Kvara et Dembélé, et ils sont passés. Mais effectivement, pour longtemps, le Paris Saint-Germain, ils n'ont pas eu la solution au problème que Arsenal leur montrait.
Tout à fait. Vas-y, Polo.
Oui, il y a juste une chose quand même qu'il ne faut pas oublier. C'est quand tu, il y a le côté sportif, mais il y a ce qui s'est passé à Paris aussi, des violences.
Bien
et
sûr.
En Allemagne, il y a un article sur deux qui parle des violences quand même. Et l'image de, je crois que vous ne vous rendez pas compte du côté allemand, l'image qu'a la France en ce moment dès qu'il se passe quelque chose. Évidemment, très populiste aussi dans certaines interviews qu'on voit en Allemagne, comme quoi il ne se passe jamais rien en Allemagne, mais par rapport à la France, en gros, c'est presque une guerre civile.
Oui, c'est ça. Ouais. Il y a les mouvements populistes européens qui sont emparés des images. Oui. Pour appuyer là-dessus également. Non, il ne faut pas nier la réalité.
Mais c'était une récupération politique. Dommage ou dramatique, c'est que lorsque tu vois un incident qui se passe dans des piscines berlinoises, par exemple, tout de suite, la référence au niveau de la violence dans les piscines en Europe, c'est la France. Donc il faut aussi se rendre compte un petit peu de l'image qu'on est en train de véhiculer à l'étranger. Voilà, c'est aussi quand même... On devrait ne parler que de la qualité technique du PSG. Mmh. Et en fait, 50% des articles, c'est des problèmes sociétaux donc ou des questions sociétales. Donc moi, je trouve ça assez dramatique quand même que la presse allemande, je sais pas comment ça se passe dans vos pays respectifs, ne parle quasiment que de ça, alors qu'on devrait s'intéresser à ce que le PSG est capable de faire...
Je vais poser la question. Daniel, chez toi, est-ce qu'on en parle beaucoup des violences post-finale, même pendant la finale ou pas en France?
Oui, mais c'est très polarisé. C'est-à-dire, c'est les journaux de droite et, oui. les personnalités sociales de droite qui
oui, font pour ça. Appuyer leur discours, quoi, c'est ça.
Oui, moi, il y a eu aussi des très belles photos, des très belles scènes, des très belles vidéos, des très beaux vidéos. Après, forcément, c'est une grande ville, il y a des problèmes comme partout. Mais voilà, moi je veux aussi de belles choses, même en Italie. Hein.
Bon, en Angleterre, en tout cas, il y a quand même une parade assez folle pour le titre de champion aussi, Julien, malgré la défaite contre le PSG.
Ouais, incroyable, elle était prévue depuis longtemps, avec un trophée ou deux s'ils avaient gagné la Ligue des Champions, forcément. On attendait beaucoup de monde déjà, parce que rappelez-vous, on avait vu des scènes de liesse assez incroyables autour de l'Emirates, le mardi soir où ils sont champions après le match nul de City à Bournemouth, le dimanche après le match de Crystal Palace où ils ont le trophée, mais bon, forcément, tous les supporters ne pouvaient pas être au stade de Crystal Palace l'après-midi, donc ils étaient tous réunis. Donc on s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait beaucoup de monde, etc. Je pense que personne s'attendait à une marée rouge de la façon dont on l'a vu dimanche après-midi. C'était juste incroyable. On parle entre 1 million et 1,5 million de supporters qui étaient là dans les rues du nord de Londres. C'était incroyable à voir. Vous avez qu'à voir les vidéos sur les réseaux sociaux. Il y en a notamment... certaines où tu vois à un moment la densité de gens à certaines croisements de rue qui est juste phénoménal, quoi, avec du rouge partout des gens qui sont montés sur les toits.
Malgré tout, la saison est réussie pour Arsenal, il faut le rappeler. Évidemment, il y a le retour d'un sacre enfin en Première Ligue. Cette défaite avec des champions atténue pas totalement, mon cher Julien, la joie d'avoir enfin récupéré un titre en Angleterre, quoi.
Ouais, non, bien sûr, l'objectif du début de saison, je l'ai souvent répété, c'était d'être champion d'Angleterre. Donc ça, tu l'avais réussi, ta saison a été réussie quoi qu'il arrive. Après, oui, si tu avais pu faire un doublé historique, magnifique, pour la première fois, remporter la Ligue des Champions pour le club, ça t'aurait amené encore une fois dans une autre dimension. Mais le dimanche, il n'y avait que des sourires partout, il y avait cette joie de la Première Ligue. 22 ans, c'est long pour un club comme Arsenal. Tu te rends compte de la puissance, de l'amour que les gens ont pour ce club dans Londres, mais pas que dans Londres. T'as des gens qui ont traversé l'Atlantique pour venir, il y avait des gens qui étaient venus de partout, t'avais toutes les générations, toutes les couleurs de peau, toutes les orientations religieuses, tout ce qu'on voulait. C'était incroyable, sincèrement, c'était tellement beau à voir. Mais même si vous n'êtes pas supporter d'Arsenal, bon, alors après, à part les NE, bien sûr, mais sinon, de voir un club communier avec son public de cette façon-là. Et encore une fois, c'est pareil pour le PSG hier à Paris, pour ceux qui gagnent dans leur club. Le Barça, on a vu une très belle parade aussi chez Edgar. Enfin voilà, c'est pas que Arsenal, mais là, c'est vrai que le nombre de gens qui avaient tellement attendu dans toutes les fenêtres autour du stade, il y avait des drapeaux, des écharpes, des serviettes, tout ce que vous voulez. C'était juste phénoménal. C'est bravo. Et bravo à eux, ils l'ont fait. Le plus dur maintenant commence dans un sens, pour rejoindre ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, Nico, dans l'évolution, dans la progression encore de cette équipe, d'Arteta lui-même, en tant que jeune entraîneur, encore une fois. On a vu peut-être un petit peu aussi dans ces changements, par exemple, la différence avec Luis Enrique, puisque quand Hincapié se blesse à la fin, ben voilà, il a fait tous ces changements, il les a fait en même temps en plus, donc c'était peut-être des choses qu'il va apprendre, et je pense qu'ils vont beaucoup apprendre de la défaite de samedi en Ligue des Champions. Mais cette parade, elle était vraiment magnifique à voir et à suivre.
Bon, pour être très, tout à fait complet, également émaillé par les incidents, avec 6 personnes qui ont agressé à l'arme blanche, marge des célébrations du titre. Exactement, une fois que la majeure partie de la foule était rentrée chez elle déjà.
Il y a un truc, il y a un mot qu'on n'utilise plus du tout, qu'on a connu, et même, je pense, certains chez vous, vous en faisiez partie, c'est
La question, est-ce que c'est on a un retour du hooliganisme ou est-ce que c'est autre chose?
Alors, tu peux l'appeler différemment. En tout cas, ce qui s'est passé à Paris après en marge de la finale et après la finale, c'est pas du hooliganisme.
La Coupe de France,
c'est dur à qualifier. Comment?
La Coupe de France, pas la finale de la Coupe de France entre les Niçois et les Parisiens, la bagarre.
Oui.
Tu vois ce genre de scène-là.
Ça oui.
Ensuite, on a eu encore cette saison-là dans les autres. Dans les
saisons inférieures. Est-ce qu'il y a des passerelles? Est-ce qu'il y a ceci? Mais on disait dans les années 80-90, on rappelle quand même que l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, a été interdit de Coupe d'Europe, suite aux Wesel de 85 pendant 10 ans. Faut pas l'oublier, ça quand même. C'est pas de jeter la faute sur les, la Grande-Bretagne, puisque les Allemands avaient beaucoup de problèmes, les Néerlandais, évidemment. Il faut se rappeler la finale de 75 au Parc, du Bayern au PSG, ce qui se passe, hein. C'est pas neutre. Donc moi, j'aimerais vraiment que les spécialistes nous expliquent ce qui se passe. Si ce sont vraiment des gens qui sont entre guillemets supporters du PSG, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui se revendiquent supporters du PSG, et j'ai envie de donner une petite anecdote à côté. C'est on dit souvent que les anarchistes sont des individualistes, mais tous les individualistes ne sont pas des anarchistes. Et moi, ce qui m'intéresse par rapport à ça, c'est quelle est cette violence aujourd'hui dans la cité, d'où elle vient, pourquoi, comment. Est-ce que on explique ça? Et je trouve qu'il y a relativement des personnes, et comme le dit très bien Danielé, qui s'expriment d'un point de vue politique. Mais moi, je préfère écouter les sociologues d'une façon qui m'explique ce qui s'est passé depuis 40 ans, pourquoi,
bien sûr.
Comment, et le remettre en perspective.
Retour d'une appétence à la violence, en tout cas, mais elle est hétérogène, hein, Polo, j'ai l'impression. Il y a plusieurs sources. Hein.
Ah, mais je pense que oui,
partout,
je suis d'accord.
Hein, tu vois.
Mais parce que moi, pendant 30 ans, on m'a dit, oh, l'hooliganisme des années 80, 90, c'est fini. Ah bon, en Allemagne, il y en a, hein, je peux t'assurer. Hein. Mais il y a aussi de plus en plus de personnes dans les stades. Donc, en pourcentage, il y a forcément plus de violence, hein. C'est toujours pareil, hein. Quand t'as 50 000 personnes qui sont dans un stade et 1% de compte, ça fait toujours 500 personnes. Mmh. Quand t'en as que 10 000, ça fait 100, hein. Donc, c'est ça. Et je trouve qu'on a relativement peu d'explications rationnelles.
Tout à fait.
Ce qui ne veut pas dire qu'il faut excuser. Mais moi, je trouve qu'on a un travail à faire.
Ce qui est terrible, c'est qu'on savait avant même qu'il y aurait des violences. Désormais, c'est une sorte de fatalité. Voilà. Ça arrive, comme beaucoup l'avaient prévu, malheureusement. Bon, bref. C'est un débat qui mériterait beaucoup d'heures sur RMC ou ailleurs, et du temps avec des gens encore plus compétents, des sociologues par exemple. Voilà pour les festivités, notamment le titre du PSG en Ligue des Champions. Maintenant, on va écouter la première minute de la soirée et c'est Polo qui garde la main. On envoie la musique, s'il vous plaît. Ah ben, ça va nous apaiser, dis donc, c'est super.
Voilà, c'est extra. JBO Stinkerfinger, un doigt d'honneur. Pourquoi? Alors, vous savez très bien que dans quelques jours, elle va commencer une Coupe du Monde aux Amériques et notamment aux États-Unis. Et moi, évidemment, qui dit Nationalmannschaft aux États-Unis, me rappelle 1994 avec un événement qui est très, très important. Nous sommes à Dallas. Donc au Texas, l'Allemagne, la Nationalmannschaft, qui, et ça on l'oublie complètement aujourd'hui, s'est revue en Allemagne, a peut-être l'une des plus grandes générations et tenante du titre de la Coupe du Monde, évidemment, qui est sur le terrain et sur le banc, peut-être un peu vieillissante, mais extraordinaire. On a des Hammers, on a des Matthäus, il y a des Guido Bourval, il y a Klinsmann qui est en feu, Riedle, etc. Il y a Hassler, enfin c'est une équipe monstrueuse. Et puis il joue la Corée du Sud, évidemment, mi-temps 3-0, tranquille. Sauf qu'il y a un petit problème aux États-Unis, c'est qu'il fait super chaud. Et ça coupe les pattes des Allemands en seconde période, qui se font remonter 3-1 puis 3-2. Mmh. Et Bertie Fauque, le sélectionneur, en a un ras-le-bol. Donc il voit que Stefan Effenberg n'est pas content de. Enfin, Bertie Fauque n'est pas content de la performance de Stefan Effenberg, qui en plus a pris un deuxième carton jaune, donc il est suspendu pour les huitièmes de finale. Donc il le sort. Et Effenberg se fait huer par les supporters de la Nationalmannschaft à Dallas. Et que fait-il, ce cher monsieur? Il fait un doigt d'honneur. Il en fait même pas un, il en fait deux en fait, parce qu'il y a très peu d'images de l'époque. Et il est par la suite exclu de la sélection allemande et il va retourner directement en Allemagne. Il va s'occuper de la Fiorentina, qui à l'époque est en seconde division, et ce sera l'un des plus gros scandales de la sélection allemande, puisque Bertie Vogt ne supporte pas ce genre de geste. Et donc moi, c'était juste pour préparer la Coupe du Monde que je parlais de ce doigt d'honneur qui, moi, me fait
toujours
rêver.
Peut-on recommencer ce genre de geste dans la Nationalmannschaft? C'est la question, Polo. Est-ce qu'un joueur est capable
aujourd'hui, la sélection allemande, ce sont des Bambi, quoi. Enfin, c'est à l'image du football. Moi, enfin, Uli Stein qui traite son sélectionneur Beckenbauer de guignol et qui est forcé de rentrer aussi.
Oui,
c'est... Moi, en 86, ça me plaît beaucoup plus. Carré. Aujourd'hui, c'est autre chose. C'est très, très différent. Mais en tout cas, voilà, en 94, au Cotton Bowl de Dallas, Effenberg fait un doigt d'honneur aux supporters allemands, était exclu de l'Anstiel Mannschaft. Et comme on est demain, un super documentaire, je pense, par rapport au trailer que j'ai vu, qui va nous parler de ça pour revisiter l'histoire de la sélection allemande pour ceux qui ont les chaînes allemandes.